Mais je reviens au dauphin Charles. Il sait, ce garçon, à quoi sa naissance et son rang l'obligent. Il sait pourquoi Dieu l'a fait naître, la place que la Providence lui a assignée au plus haut de l'échelle des hommes, et que, sauf à mourir avant son père, il sera roi. Il sait qu'il aura le royaume à gouverner souverainement. Il sait qu'il sera la France. Et si dans le secret de soi il s'afflige que Dieu ne lui ait pas dispensé, en même temps que la charge, la robustesse qui l'aiderait à la bien porter, il sait qu'il doit pallier les insuffisances de son corps par une bonne grâce, une attention à autrui, un contrôle de son visage et de ses propos, un air tout ensemble de bienveillance et de certitude qui jamais ne laisse oublier qui il est, et se composer de la sorte une manière de majesté. Cela n'est point chose aisée quand on a 18 ans et que la barbe vous pousse à peine. Il faut dire qu'il y a été entraîné de bonne heure. Il avait 11 ans quand son grand-père, le roi Philippe VI, parvint enfin à racheter le Dauphiné à Humbert II de Vienne. Cela effaçait quelque peu la défaite de Crécy et la perte de Calais. Je vous ai dit après quelle négociation. Ah, je croyais. Vous voulez donc en savoir le menu ? Le dauphin Humbert était aussi gonflé d'orgueil que perclus de dettes. Il désirait vendre, mais continuait à gouverner quelque partie de ce qu'il cédait, et que ses états après lui restassent indépendants. Il avait d'abord voulu traiter avec le comte de Provence, roi de Sicile, mais il monta le prix trop haut. Il se retourna alors vers la France, et c'est là que je fus appelé à m'occuper des tractations. Dans un premier accord, il céda sa couronne, mais seulement pour après sa mort. Il avait perdu son unique fils. Parti au comptant, 120 000 florins, s'il vous plaît, et parti en pension viagère. Avec cela, il eût pu vivre à l'aise, mais au lieu d'éteindre ses dettes, il dissipa tout ce qu'il avait reçu en allant chercher la gloire à combattre les Turcs. Harcelé par ses créanciers, il lui fallut alors vendre ce qui lui restait, c'est-à-dire ses droits viagers. Ce qu'il finit par accepter, pour 200 000 florins de plus et 24 000 livres de rente, mais non sans continuer de faire le superbe. Heureusement pour nous, il n'avait plus d'amis. C'est moi, je le dis modestement, qui trouvai l'accommodement par lequel on put satisfaire à l'honneur d'Humbert et de ses sujets. Le titre de dauphin de Viennois ne serait pas porté par le roi de France, mais par l'aîné des petits-fils du roi Philippe VI, et ensuite par son aîné-fils. Ainsi, les dauphinois, jusque-là indépendants, gardaient l'illusion de conserver un prince qui ne régnait que sur eux. C'est la raison pour laquelle le jeune Charles de France, ayant reçu l'investiture à Lyon, eut à accomplir au cours de l'hiver de 1349 et du printemps de 1350 la visite de ses nouveaux états. Cortège, réception, fête. Il n'avait, je vous le répète, que 11 ans. Mais avec cette facilité qu'ont les enfants d'entrer dans leur personnage, il prit l'habitude d'être accueilli dans les villes par des vivats, d'avancer entre des fronts courbés, de s'asseoir sur un trône, tandis qu'on se hâtait de lui glisser sous les pieds assez de carreaux de soie pour qu'il ne pendisse pas dans le vide, de recevoir en ses mains l'hommage des seigneurs, d'écouter gravement les doléances des villes. Il avait surpris par sa dignité, son affabilité, le bon sens de ses questions. Les gens s'attendrissaient de son sérieux. Les larmes venaient aux yeux des vieux chevaliers et de leurs vieilles épouses lorsque cet enfant les assurait de son amour et de son amitié, les louait de leur mérite et leur disait compter sur leur fidélité. De tout prince, la moindre parole est objet de gloses infinies par lesquelles celui qui l'a reçue se donne importance. Mais d'un si jeune garçon, d'une miniature de prince, quels récits émus ne provoquaient pas la plus simple phrase ? À cet âge, on ne peut point feindre. Mais si, il feignait. Et même, il se plaisait à feindre, comme tous les gamins. Feindre l'intérêt pour chacun qu'il voyait, même si on lui offrait un regard louche et une bouche édentée. Feindre le contentement devant le présent qu'on lui remettait, même s'il en avait déjà reçu 4 semblables. Feindre l'autorité lorsqu'un conseil de ville venait se plaindre pour une affaire de péage ou quelque litige communal. Vous serez rétabli dans votre droit si l'on vous a fait tort. Je veux que l'on conduise enquête avec diligence. Il avait vite compris combien prescrire une enquête d'un ton décidé produit grand effet sans engager à rien. Il ne savait pas encore qu'il serait d'une santé si faible, bien qu'il fût tombé malade pendant plusieurs semaines à Grenoble. Et ce fut durant ce voyage qu'il apprit la mort de sa mère, puis de sa grand-mère, et bientôt après, le remariage de son grand-père et celui de son père, coup sur coup, avant qu'on lui annonçât qu'il allait lui-même bientôt épouser Madame Jeanne de Bourbon, sa cousine, qui avait le même âge que lui. Ce qui s'était fait a atteint l'ermitage, au début d'avril, dans une grande pompe et toute une affluence d'églises et de noblesse. Il n'y a que 6 ans. C'est miracle qu'il n'ait pas eu la tête tournée ou perturbée par toutes ces pompes. Il avait seulement révélé le penchant commun à tous les princes de sa famille pour la dépense et le luxe. Des mains percées. Avoir tout de suite tout ce qui leur plaît. Je veux ceci, je veux cela. Acheter, posséder les choses les plus belles, les plus rares, les plus curieuses, et surtout les plus coûteuses. Les animaux de ménagerie, les orfèvreries somptueuses, les livres enluminés. Dépenser, vivre dans des chambres tendues de soie et de drap d'or de Chypre. Faire coudre sur leurs vêtements des fortunes en pierreries, rutiler, c'est, pour le dauphin comme pour tous les gens de son lignage, le signe du pouvoir, et la preuve, à leurs propres yeux, de la majesté. Une naïveté qui leur vient de leur aïeul, le premier Charles, le frère de Philippe le Bel, l'empereur titulaire de Constantinople. Ce gros bourdon qui tant s'agita et agita l'Europe, et même un moment songea à l'Empire d'Allemagne, un dispendieux, si jamais il en fut. Tous ont cela dans le sang. Quand on se commande des souliers dans la famille, c'est par 24, 40 ou 55 paires à la fois. Pour le roi, pour le dauphin, pour Monseigneur d'Orléans. Il est vrai que leurs sottes poulaines ne tiennent pas à la boue. Les longues pointes se déforment, les broderies se ternissent et l'on abîme en 3 jours ce qui a pris 1 mois de labeur aux meilleurs artisans qui sont dans la boutique de Guillaume Loisel à Paris. Je le sais parce que c'est de là que je fais venir mes mules rouges. Mais moi, il me suffit de 8 paires à l'année. Et regardez, ne suis-je pas toujours proprement chaussé ? Comme la cour donne le ton, seigneurs et bourgeois se ruinent en passementerie, en fourrure, en joyaux, en dépenses de vanité, on rivalise d'ostentation. Pensez que, pour orner le chaperon que portait Monseigneur le Dauphin, ce jour de Rouen que je vous compte, on avait usé 1 mar de grosses perles et 1 mar de menus, commandés chez Bellomé Turel pour 300 ou 320 écus. Allez-vous étonner que les coffres soient vides quand chacun dépense plus qu'il ne lui reste d'argent. Ah, voilà ma litière qui revient. On a changé d'attelage. Eh bien, remontons.